Amen. Gloire à Dieu. Parler de Jésus parce que c'est vrai, comme le disait John, Jésus-Christ a marqué la vie de beaucoup d'hommes et de femmes d'une façon particulière. Et bien des hommes, ici-bas, ont marqué le siècle, notre monde, en accomplissant des choses particulières, en réalisant des choses particulières. On pourrait appeler cela des grands hommes. Je voudrais que l'on s'arrête sur un homme. Jésus dira de lui ceci. Attirer l'attention, il va même attirer l'attention de Jésus, Jésus dira que je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parlant d'un homme, un centenier romain, c'est de cette foi que je voudrais qu'on parle ce soir. La foi, ce petit mot de trois lettres, et qui vaut beaucoup de choses. La foi, la Bible dit ceci, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça, c'est une bonne définition de ce qu'est la foi. La foi, c'est ça, et la foi n'est pas quelque chose de virtuel, quelque chose de flou et de vague, mais la foi, c'est une espérance vivante. La foi est une espérance palpable que ce que Dieu dit est réalisable. Maintenant, il n'est pas question de se forcer à avoir la foi et de chanter en boucle ou de prononcer en boucle le nom de Jésus, mais d'une confiance absolue en Dieu. Croire en Jésus-Christ, en Dieu, être convaincu que la seule chose que je puisse faire, c'est lui faire confiance. Et que passer à côté de Jésus, c'est passer à côté de quelque chose d'important, comme le dit ce cantique, qu'avec Dieu, nous, lui et moi, nous ferons des exploits. Comme nous l'avons chanté, il faut de la foi. Il faut de la foi pour croire que Jésus est au milieu de nous. Et même si mes yeux physiques ne le voient pas, mais par la foi, vous pouvez croire qu'il est là. Par la foi, il est capable de faire bien des choses dans une vie en désordre, que l'impossible devient possible avec Dieu à mes côtés. C'est l'encouragement que je voudrais vous laisser. Ayez le courage de faire confiance à Dieu, quel que soit ce que pensent les autres autour de vous. Et même si bien des gens ne croient pas en Dieu, et même pensent que c'est un mythe, une légende, mais faites cette expérience qu'avec Jésus pour berger, comme le dit encore ce cantique, qu'il est possible de repartir à zéro, balayer la vie passée et repartir à zéro, tout recommencer. C'est possible si et seulement si vous décidez ce soir de mettre votre foi en action. Une entière confiance en ce que Dieu dit est vrai dans sa parole. Votre vie va changer. C'est vrai que vous pouvez entrer dans ce lieu et se dire « ben, je verrai bien ce qu'il se passe », mais si votre cœur reste fermé, verrouillé à double tour, vous repartirez de la même façon que vous êtes entré. Mais il y a quelque chose qui peut changer si et seulement si vous lui faites confiance et pourquoi pas lui ouvrir votre cœur. Mais alors vous comprendrez ce que l'apôtre Paul dit et vivrez ce qu'il dit, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour revenir à la foi, j'ai noté, le dictionnaire dit ceci, parle d'une assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Et c'est juste, ce que Dieu promet va se réaliser, se réalisera. L'expérience que va faire cet homme, expérience qu'on va lire ensemble, un homme, on ne connaît pas son nom, mais nous savons que c'est un centenier romain. Texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 10. C'est vrai qu'il y a un avantage de croire en Dieu, d'avoir la foi en Dieu parce qu'on n'est pas déçu. Parce que Dieu répond et honore la foi de celui qui s'approche de lui par la prière. Puissiez-vous ce soir faire cette expérience et lui faire confiance. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 5, est écrit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. La foi de cet homme est grande. Grande quand on réalise qui il était. Et c'est le premier point de ce partage. Si cet homme avait été de condition modeste, un homme pauvre, on dirait, c'est normal s'il a la foi, il n'a que ça à espérer de la vie. Sauf que il s'agit d'un centenier romain, détesté par les uns parce que c'est un homme qui envahit le pays, le territoire de force, et apprécié par les autres, en particulier par certains hommes religieux. Je vous lis quelques versets dans l'évangile de Luc, chapitre 7, des hommes religieux qui disent de lui, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » C'est étonnant de la part d'hommes religieux. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on lit les évangiles, on apprend que beaucoup d'hommes religieux ont cherché à mettre en accusation Jésus, chercher la petite bête pour l'accuser. Et ces hommes diront ceci, « Il mérite que tu lui accordes cela, étonnant de la part de ces hommes religieux. Ils méritent, ont-ils de la foi pour croire que Jésus est capable de guérir le serviteur du centenier ? Non. Mais ils méritent que... Et peut-être y a-t-il quelqu'un qui se dit, et moi, est-ce que je mérite moi aussi que moi qui n'ai pas accompli de grandes choses dans ma vie, est-ce que je mérite que quelqu'un s'occupe de moi ? Je voudrais vous encourager, vous rassurer, et vous dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas la différence entre les hommes, soit êtes-vous pauvre ou riche, malade ou en bonne santé, mais Dieu ne fait pas de différence. Un autre homme, dans le livre des Actes des Apôtres, il s'agit de Pierre, rencontrera un autre centenier romain, il s'appelle Corneille, et il lui dira ceci, il s'agit de Pierre, il dit « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toutes les nations, tout homme qui le craint, qui le révère et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. » Vous dire que Dieu ne se manifeste pas uniquement dans la vie de ceux qui se portent bien, mais aussi de tout homme qui lui font confiance, qui le considère. Tout homme qui considère, qui prend conscience que dans sa vie, il lui manque quelque chose. Qu'il manque Dieu, j'ai besoin de faire la paix avec Dieu. Même si vous n'êtes pas de la tribu d'Israël, un Hébreu, mais vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Que le salut ne se mérite pas par une quelconque œuvre, mais que le salut est gratuit. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. » Et il faut de la foi. De la foi pour saisir la grâce de Dieu. La grâce, de la foi pour saisir ce que je ne mérite pas. Le pardon de Dieu pour moi, il faut de la foi. Comment y arriver, me direz-vous ? C'est simple, il suffit, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, comme cet homme, il se manifestera dans votre vie. Il vous parlera, il se révélera à votre cœur. Il n'est pas question d'une confiance aveugle, une confiance parce que quelqu'un vous aura encouragé à le faire, mais faites-lui confiance, et il se révélera à votre cœur. Deuxièmement, la foi du centenier romain était grande quand on réalise que son serviteur était malade. Dans certaines versions, on parle d'un serviteur, dans d'autres, on parle d'un esclave. Et cette personne était malade et même sur le point de mourir. Le fait que le serviteur soit malade n'est pas quelque chose de banal dans cette histoire. Il faut comprendre les relations qu'il y a entre un maître et son esclave. Soldat type de l'époque n'est pas quelqu'un de tendre ni de généreux. Un soldat romain, c'est quelqu'un plutôt brutal, c'est quelqu'un violent. Dans certaines situations, c'est même quelqu'un qui peut se devenir sanguinaire. Et le propriétaire d'esclaves moyen à l'époque, le militaire, il a tous les droits sur son esclave. Il a le droit de vie et de mort sur un esclave. Et même pour lui, un esclave est même plus important qu'un animal. Un esclave malade, pour une personne, c'est entretenir quelqu'un de plus. Et à l'époque, on ne fait pas de cas des esclaves. Mais le centenier romain ne va pas avoir une attitude méchante, inhumaine, mais il aura de la compassion pour son serviteur. Vous dire que Dieu fera la même chose avec vous. Il aura de la compassion pour vous. Il est écrit quelque part qu'il ne brisera pas, le roseau cassé. Bien au contraire, il va même le réparer, il va le redresser. Si le monde vous a rejeté comme un roseau cassé, lui, Jésus, prendra soin de vous. Et là aussi, il faut de la foi. De la foi pour croire que, malgré ma situation, ce que je suis brisé, été brisé par la vie, par le monde qui m'entoure, Jésus restaure les âmes, les vies brisées. Il dira ceci, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et non condamné. Troisièmement, la foi du centenier était grande. Grande lorsqu'on réalise l'ampleur du problème, toujours à propos du serviteur malade. Il était couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Une maladie même incurable, parce que je me répète, mais il était sur le point de mourir. Un homme condamné. Mais la foi du centenier ne va pas s'arrêter au simple fait que son serviteur est sur le point de mourir. Il y a une expression que l'on utilise quelquefois et j'insiste, qui est fausse. On dit quelquefois « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est faux. C'est faux, puisqu'à quoi bon à ce que le ciel nous vienne en aide si nous-mêmes on fait tous nos efforts pour y arriver ? Ça ne sert à rien. Il faut de la foi. Il faut de la foi pour croire que je ne m'en sortirai pas avec mes efforts. Il faut de la foi pour croire que Jésus me viendra en aide. Je voudrais vous encourager à vous aussi à faire ce pas de foi, faire cet acte de foi de la même démarche que le centenier romain. Il va croire que rien n'est impossible à Jésus et il n'y a pas de raison d'hésiter, il n'y a pas de raison d'en douter. Le prophète Ésaïe parle de Jésus de cette façon, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Il n'y a pas de raison de ne pas croire que je suis guéri en Jésus-Christ. Parce que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Plus bas, elle dira que ce sont ces meurtrissures, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de lui avec assurance par la prière, parce que Jésus a vaincu la maladie sur la croix. Il a vaincu la mort sur la croix. Il a porté ce que nous aurions dû nous-mêmes porter de nous-mêmes, la maladie, nous aurions dû la subir, mais lui va la clouer sur la croix. Quatrièmement, la foi du centenier était grande, grande lorsqu'on réalise quelle a été la requête du centenier. Et la requête du centenier était toute simple, elle se résume en ces quelques mots, « dis seulement un mot ». Avec sa fonction, le centenier, il aurait pu obliger Jésus à le rejoindre. Il aurait pu ordonner à des soldats d'aller chercher Jésus de force, et l'amener à la maison pour soigner son serviteur, mais il va simplement lui demander un mot. Un mot. Un mot de Jésus change tout. La Bible dit ceci, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Une parole de Jésus redonne la vie. Et là aussi, il faut de la croix, de la foi, pour croire que par la parole de Jésus, je suis guéri. Il faut, de la même façon, une seule chose nous sépare de la présence de Dieu. Cette chose correspond, une seule chose, et ce qui me sépare de la présence de Jésus, de Dieu, c'est le péché. Le péché, c'est d'avoir rejeté Dieu. Le péché, c'est désobéir à Dieu. C'est ce qui nous sépare de la présence de Dieu. L'apôtre Paul exprime le fait que le péché nous conduit à la mort. Encore une chose. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas besoin de foi pour croire que le péché nous éloigne de Dieu. Il n'y a pas besoin de foi pour comprendre que c'est le péché qui me sépare de sa présence. Il vous faudra de la foi pour retrouver cette présence. Retrouver la présence de Dieu, il vous faudra de la foi pour croire que le salut, la vie éternelle se trouve en Jésus. Mais cette foi est le résultat d'une conviction personnelle, une démarche personnelle individuelle de chacun. Il n'est pas possible d'être sauvé avec la foi d'un autre. Il n'est pas possible d'être sauvé avec la foi de son conjoint ou d'un ami ou d'un parent proche. Mais la foi, comme le salut, est quelque chose de personnel. C'est reconnaître que je suis un pécheur et que mon péché me prive de Dieu. Une autre décision personnelle à prendre est de considérer que j'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de changer de comportement. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Cinquièmement, la foi du centenier est grande. Grande lorsqu'on réalise l'humilité du centenier. Et il ne s'approche pas de Jésus avec la tête haute. Bien au contraire, il lui dira ceci. Centenier romain se présente à Jésus avec ces mots, « Je ne suis pas digne ». Plus tard, il dira, « Moi qui suis soumis ». Il se sent indigne. Il va mettre de côté son moi, mettre de côté la fierté, l'orgueil de ce qu'il représente aux yeux de la population. Jésus-Christ va faire la même chose. Jésus-Christ se présente avec la même attitude, avec de l'humilité. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, je vous fais la lecture. « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. » Et là aussi, il faut de la foi. Il faut de la foi pour croire que Jésus-Christ s'est humilié lui-même, que Jésus-Christ a donné sa vie pour me rendre la liberté. Il faut de la foi pour croire que je n'ai pas besoin de lutter avec mes propres forces. Il faut de la foi pour croire que ça ne sert à rien de lutter contre la chair et le sang, puisque lui-même, il a remporté la victoire pour moi sur la croix, que par son sang, il efface mes péchés. Il y faut de la croix, de la foi. Il faut même de la foi pour mettre de côté ses préjugés à propos de Jésus et accepter ou pas le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Sixièmement, la foi du centenier était grande. Verset 13, Jésus lui dira, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit ceci, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Et c'est ce que le centenier va faire lorsqu'il s'approche de Jésus. Le Seigneur s'abaissera toujours à la rencontre de l'homme, de la femme qui s'approche de lui par la foi. Le Seigneur s'abaissera à votre rencontre, à vous aussi. Et pour une simple raison, c'est que la guérison nous est offerte par grâce. La grâce de Dieu est quelque chose que nous ne méritions pas. Bien au contraire, nous méritions d'être condamnés, de vivre avec, mais Dieu qui nous aime prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, nous réconciliant avec Dieu. Jésus-Christ est venu sur terre pour que nous ayons la vie, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous rapprocher de Dieu. Et enfin, la dernière raison, la foi du centenier était grande, grande lorsqu'on réalise la réaction de Jésus. Il dira ceci, « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Jésus reconnaît la foi des hommes, et même la foi des hommes a du prix à ses yeux. Il dira ceci, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Être condamné ou être sauvé, c'est un choix individuel que vous pouvez prendre ce soir. La vie ou la mort? Je pense que si je vous pose la question, beaucoup choisiraient la vie. Mais alors, on ne peut pas choisir la vie et rejeter Jésus. Et là aussi, il faut de la foi. De la foi pour reconnaître que j'ai besoin de Jésus pour être sauvé. Salut de votre âme est quelque chose de sérieux qu'il ne faut pas négliger. En regardant autour de nous, surtout en cette période de fête, le monde s'amuse avec le péché. Considère que le péché est quelque chose de normal, de pas grave. Mais entre la vie et la mort, c'est une décision importante, sérieuse. Dans le texte que nous avons lu, Jésus parle, il y a un risque d'être jeté dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et à ce moment-là, il sera trop tard. Et il sera trop tard pour choisir la vie. Il sera trop tard pour changer d'avis. Il faut de la foi. Il faut de la foi pour décider aujourd'hui ou jamais et de faire la paix avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En conclusion, pour terminer, je voudrais terminer par ce témoignage que j'ai entendu il y a quelques jours de cela. Vous allez comprendre, un jeune homme se rend à une réunion d'évangélisation, une réunion comme celle-ci. Ce jeune homme s'en va dans cette église de son quartier et ce jeune homme va s'avancer. À la fin de la réunion, il va s'avancer afin que l'on puisse prier pour lui. Ce jeune homme souffre d'une maladie de vision, il voit mal. Les médecins ont prescrit que sa vision va baisser et ne va pas s'améliorer, bien au contraire. Il va s'avancer, on va prier pour lui et Dieu va honorer sa foi, la foi de ce jeune homme. Le résultat, racontant son histoire, cette histoire à d'autres amis de son entourage, l'un de ses amis lui dira ceci, « Si tu as été guéri, c'est le hasard, c'est une coïncidence. » C'est formidable quelque part lorsque le temps de Dieu coïncide avec le nôtre, mais vous dire ceci, il n'y a pas de coïncidence avec Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais la seule chose qui fonctionne, c'est la foi en Jésus-Christ. Qu'à votre tour, que vous puissiez faire un acte de foi et aller s'approcher de lui par la prière. Ce n'est pas la foi du pasteur qui vous sauvera, ce n'est pas la foi de votre voisin qui vous sauvera, mais une foi personnelle, individuelle. Que si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il se révélera à votre cœur, il se manifestera à votre vie. Si vous lui donnez votre cœur, votre vie, ayez cette assurance que votre vie va changer, que vous deviendrez une nouvelle créature. C'est vrai, la Bible déclare ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À travers de ce témoignage, cet exemple, peut-être y a-t-il quelqu'un qui a compris que, au travers de ce témoignage, de la foi d'un homme aussi banal que quelqu'un ici, qu'il est possible, de tout recommencer avec Jésus pour berger, simplement en s'approchant de lui par la foi, simplement en venant à lui par la prière. Je voudrais peut-être aider quelqu'un à remporter une victoire, aider quelqu'un à simplement mettre en application cet exemple, mettre sa foi en application, en action. Je voudrais vous y aider en priant avec vous. Alors si vous le souhaitez, je vous demanderai de vous avancer afin de prier avec vous.